R22 Tout Monde, antenne hors limite.
Bonjour à tous, merci d'être présents, présentes. Cette rencontre avec Gwenola Wagon, Stéphane Dégoutin et Tiffany Tavernier s'inscrit dans la programmation du festival Hors Limite, qui est un festival départemental qui est porté par les bibliothèques en Seine-Saint-Denis et qui permet pendant deux semaines, différentes rencontres, différentes propositions artistiques dans beaucoup de lieux en Seine-Saint-Denis, dans les bibliothèques, dans les cinémas, dans les musées. Il y a une proposition assez riche. Le festival a été inauguré hier et il se poursuit jusqu'au 13 avril. Voilà. Et donc cette rencontre, en fait, elle s'organise autour de deux ouvrages et trois écrivains qui a pour thème l'aéroport international, un ciel ouvert en circuit fermé. Alors je vais vous présenter les deux ouvrages. Donc Roissy de Tiffany Tavernier qui est édité aux éditions Sabine Vespizer et Psychanalyse de l'aéroport international qui est aux éditions 369. Alors Tiffany Tavernier, vous êtes romancière, scénariste pour le cinéma et pour la télévision. Vous avez co-réalisé avec votre père une adaptation de votre livre Oli Lola qui est sorti en 2004.
Co-écrit.
Qui est donc paru en 2004, le livre en tout cas. Et Roissy est votre huitième roman. Alors, quelle est l'histoire de Roissy? Roissy, c'est l'histoire d'une femme qui en fait, vit dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Elle y est depuis plusieurs mois. Elle s'appelle Anna. Et semble manifestement avoir perdu la mémoire. Elle fait partie de ces hommes et ces femmes qu'on appelle les indécelables. Et en fait, ce sont une population d'hommes et femmes qui hantent les aéroports internationaux. On en trouve un peu partout. Et pour ne pas se faire remarquer, puisqu'ils ont intérêt à ne pas se faire repérer, ils se font passer pour des voyageurs, pour ne pas se faire expulser. Alors Anna, l'héroïne de votre livre, qui est un livre polyphonique, on y reviendra tout à l'heure, s'invente des vies en parlant aux voyageurs, au personnel de l'aéroport, et elle doit continuellement être en mouvement, changer de vêtements, de coiffure, d'ouvrir des portes sans but, en feignant de n'être que de passage. Et puis un jour, elle rencontre Luc. Luc vient tous les jours à l'aéroport de Roissy, il vient pour l'arrivée du Rio Paris. Parce qu'il a perdu sa femme dans le crash de cet avion et il y vient tous les jours et cette rencontre avec Luc elle va lui apporter un peu et beaucoup de sens et lui faire raviver sa mémoire ou ses souvenirs. Alors à travers ce récit on navigue dans les arcanes de cette superstructure qu'on appelle l'aéroport international. C'est un objet gigantesque, alors 64 millions de voyageurs en 2014 par an, et on circule d'un terminal à l'autre, dans les sous-sols et dans les gaines techniques. Voilà. Gwenola Wagon et Stéphane Dégoutin, vous êtes les auteurs de Psychanalyse de l'aéroport international, qui est sorti au mois d'août 2018. Vous êtes tous les deux artistes et chercheurs. Gwenola Wagon, vous enseignez à l'Université Paris 8. Stéphane Dégoutin, vous enseignez à l'École nationale des arts décoratifs. Vous êtes producteur de films, tous les deux, d'installations, d'expositions en France et à l'étranger.
Réalisateur, on fait des films.
Vous faites des films, de la vidéo, des vidéos art. Et vous avez, et notamment dans vos installations ou dans vos projets, vous aviez le musée du terrorisme, en tout cas de l'imaginaire terroriste, il y a eu deux appellations. Et que vous imaginiez implanter à Roissy. Alors je précise, c'est sur une application mobile. Hein. Mais vous proposiez à des visiteurs de pouvoir circuler dans l'aéroport et de leur faire vivre cette expérience de la sécurité, l'hypersécurité, de la terreur, et, en passant par les portiques, etc. Alors vous avez l'habitude d'imaginer des alternatives et des narrations potentielles pour déconstruire et reconstruire le monde. Et en tout cas, pour le faire comprendre, le monde dans lequel nous vivons. Vous êtes fondateur du collectif No Go Voyage, et vous avez été récompensé dernièrement par le prix de la presse Upline Prize en 2018 pour un peu l'ensemble de vos travaux, c'est ça, hein. Donc Upline Prize, c'est un prix qui est décerné aux artistes d'art contemporain, mais c'est un prix web, enfin en ligne. Alors, de quoi parle ce livre ? On sait que depuis les attentats du 11 septembre 2001, la sécurité des aéroports est devenue un objectif prioritaire. C'est devenu une véritable industrie. Il y a des exemples assez cocasses dans le livre. Parfois poussé, même souvent, à son paroxysme. Alors dans ce livre, qui est un essai, une exploration, un scan de l'inconscient de l'aéroport, vous sondez son imaginaire, ses failles, ses dysfonctionnements, vous y touchez à ses névroses, à sa représentation, qui est en fait une... Vous partez du fait qu'il y a une contradiction. La contradiction évidente, c'est le désir de voyage, et en même temps la nécessité de se protéger, l'éloge de la vitesse, et en même temps la stagnation, notamment dans les... On sait bien que tout le monde a pris un peu l'avion pour arriver à destination, ils font arriver à l'aéroport de bonnes heures avant, donc c'est ça, cette contradiction que vous mettez en avant. Alors ce livre est structuré en vingtaine de chapitres thématiques qui sont richement illustrés par des photos, par des captures d'écran, par des représentations graphiques que vous avez un peu glanées sur le web. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises ? Alors, je le disais, on a deux objets qui sont sur deux registres différents. L'un est un roman, Roissy. L'autre est un essai polymorphe qui comporte des réflexions, des spéculations, des témoignages. Mais une chose est sûre, que dans ce lieu qui est assez standardisé, vous le montrez tous les deux à votre niveau, assez lisse, complètement isolé de l'extérieur, on pourrait y passer plusieurs heures, voire plusieurs mois ou années sans s'en rendre compte. Tiffany Tavernier, qu'est-ce que vous pensez de cela ?
On pourrait. Moi, j'y ai passé plusieurs mois déjà. Enfin, peut-être que j'ai pas vécu, mais j'y allais pour écrire ce roman. J'y ai passé, oui, plusieurs mois à enquêter, à explorer les lieux, à essayer de comprendre, de me l'approprier. C'est un lieu, c'est quel que soit le lieu, quel que soit le dispositif du lieu. Et c'est vrai que là, moi, je savais que j'allais y poser tout un roman. Donc, et puis à travers une femme qui y vivait. Alors ils sont très peu, hein, les indécelables, hein. C'est pas du tout des centaines de personnes, c'est une ou deux personnes par aéroport internationaux, donc on est sur une population très marginale, parce qu'il faut une ruse et une compétence, on va dire, et une intelligence assez extraordinaire pour échapper aux 1300 caméras de Roissy, aux 700 caméras, 1300 policiers. Donc vous êtes sur une surveillance quand même continue, H24, donc il faut vraiment être super, super doué. Donc ils en ont repéré un, là, au T2E, en décembre, un indécelable, c'est un homme. Donc c'est assez rare, il les repère, et parfois il ne les repère pas. Voilà. Il y a une équipe de sociologues qui a travaillé 4 ans, entre 2004 et 2008, qui en a repéré deux. Donc voilà, on est sur des gens quand même assez particuliers, assez extraordinaires, hein, assez fascinants. Et c'est vrai que je ne suis pas, moi, allée sur le pôle de Roissy pour les chercher, pour les fliquer. Je me suis mise à la place d'un personnage, je savais qui était une indécelable, et il fallait, je l'ai inventé. Et je me suis, et si je suis allée sur Roissy, si j'ai enquêté, c'était pour m'approprier le lieu, à partir de son regard, de son vécu et de ce que j'avais construit de ce personnage qui a effectivement perdu l'intégralité de sa mémoire autobiographique suite à un choc post-traumatique très très violent. Et donc oui, je pense qu'on peut passer, je ne pense pas sans s'en rendre compte, non, mais pour répondre à votre question, je pense que oui, on peut passer, moi l'expérience que j'ai faite et qui continue de me hanter, puisque c'est une expérience de voyage immobile, oui, je pense qu'on peut passer. Moi, à un moment donné, je ne pouvais plus m'arrêter d'y aller. Parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant et d'assez incroyable dans simplement la geste de poser son corps, hein, de poser son être tout entier dans un endroit pareil, qui est quand même traversé par 100 millions de voyageurs maintenant. On a atteint le chiffre. et puis où 120 000 personnes travaillent. Donc il y a quelque chose d'un spectacle du monde, mais aussi un spectacle humain qui et c'est assez. Moi j'ai beaucoup voyagé, hein, j'ai fait beaucoup de donc les aéroports, je les connais, j'ai énormément bourlingué, j'ai fait 50 pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'on me connaît pas tellement, parce que j'étais pas tellement là pendant la publication de mes précédents romans. Donc voilà, oui, pour répondre à votre question, j'ai pris un peu de temps, pardon, mais oui, je pense qu'on peut passer du temps. Et d'ailleurs, depuis que certaines personnes qui ont lu le livre, ça me fait très plaisir, viennent 5-6 heures à l'avance. Alors c'est des petites heures, mais même mon éditrice, maintenant elle vient avec une sorte d'avance pour vivre le temps d'Anna. Je l'appelle Anna, mon personnage. Donc voilà, c'est... ça, j'adore. Le fait que... Et puis même là, récemment, hier, j'étais en Bretagne et j'ai une personne qui me dit, bah, moi, j'ai lu votre livre, je pensais pas que j'allais le lire, je l'ai lu. Et bah, pour la première fois, je me suis mise à parler à des gens dans le Val, là, que vous... Et ça, j'aime bien. Ça m'a fait... Et voilà, c'est parce qu'il n'y a pas que moi, au fait, c'est... Voilà.
Alors Stéphane de Goutin et Gwenaëlle Vallon, vous écrivez un moment dans votre livre, l'individu doit être comme les autres, se comporter face au personnel de sécurité et aux douaniers de manière fluide, sans se faire remarquer. J'ai envie de vous demander comment vous êtes arrivés, vous deux, enfin vous trois, à vous intéresser à cet objet, à cet environnement de l'aéroport. Peut-être Stéphane,
ouais. Bah peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Tiffany, c'est vrai que l'aéroport, c'est un lieu qui, comme le montre très bien ton roman, instaure un rapport au temps très particulier, un rapport aux autres, un rapport au monde qui est totalement particulier, qui est totalement étrange, où justement on rentre dans cette énorme machine comme un espace de contrainte qui est sans doute sans équivalent dans d'autres situations. Dans la vie normale, on arrive dans une sorte de... Là où tout est parfaitement organisé et qui crée donc un rapport où on est soumis à la machine de manière peut-être extrême dans une situation qui pourtant va chercher à amener une liberté de déplacement, une liberté d'être, etc. Donc il y a cette espèce d'opposition qui existe. Et l'aéroport, bon, bah, c'est un lieu qui fascine énormément de gens. Ça, je veux dire, on n'est pas du tout les seuls à s'y intéresser. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a deux livres qui le traitent de manière totalement différente. Et à la fois, enfin bon, on a beaucoup aimé ton livre. Voilà, c'est totalement différent, mais ça raconte pas du tout la même chose. Mais on pourra en écrire encore 50 sur le sujet. Donc on peut raconter ce que nous on a cherché à faire, mais c'est pas du tout pour clore le sujet, évidemment, quoi. Et en fait, ça fait très longtemps qu'on s'intéresse aux aéroports, de plusieurs points de vue différents, comme une fascination pour l'objet. Peut-être je vais répondre pour moi, parce qu'en fait, on a nous deux aussi des intérêts assez différents, puis après, Gwenaëlle répondra pour elle, mais moi, je viens du monde de l'urbanisme, et je me suis toujours intéressé à ces espaces qui sont... des espaces d'interface qui permettent... l'aéroport international, quand je dis ça... On envisage surtout l'espace des aéroports internationaux, l'espace de l'aérien en général, c'est-à-dire pas forcément des lieux en particulier, mais cet espace qui fait l'interface entre différentes villes, différents pays du monde, comme un espace soumis à des règles spécifiques et à des usages spécifiques et qui sont encore devenus de plus en plus étranges après, évidemment, les dernières décennies, avec l'augmentation constante de la sécurité et donc et également l'augmentation constante des vols low cost qui imposent aussi un rapport au corps et à la soumission des corps qui est sans cesse plus accentué. Et donc voilà, c'est une fascination qu'on a essayé de formaliser dans différents projets. Ça fait un peu 10 ans qu'on travaille dessus, là, donc il y a eu plein de projets différents, mais le dernier en date, c'est ce livre-là qui essaye de, par une vingtaine de chapitres, de pointer quelques étrangetés de l'inconscient du lieu. Je sais pas si j'ai...
Ouais, peut-être pour rebondir à ce que tu disais sur le voyage immobile, en fait, le premier moment où on a formalisé un peu l'idée d'un musée. Alors en fait, le projet, Stéphane parle de 10 ans parce qu'en fait, il y a eu plusieurs projets différents qui nous ont amenés à l'aéroport à chaque fois, mais sur différents projets. Donc, en fait, il y a eu un premier projet qu'on avait appelé les voyages immobiles Et c'était l'idée de s'intéresser à un lieu de transit. Alors, ce n'était pas l'aéroport, je fais une petite digression. C'était Châtelet-Léal avant la restructuration et avant les travaux. Il y a Châtelet-Léal, il y a 10 ans, en 2006, 2007, 2008, enfin, il y a plus de 10 ans même. Et en s'intéressant à Châtelet-Léal, en fait, on a proposé à des personnes autour de nous. Ça pouvait être tous ceux qui voulaient, et on a aussi fait des commandes à des écrivains ou des artistes de s'arrêter dans un lieu de transit de leur choix de Châtelet-Léal et d'y rester un temps plus long que ce qui pourrait rester d'habitude, mais beaucoup plus long, en essayant d'y rester 5 heures ou 6 heures. Et Stéphane s'était arrêté dans la station d'échange, qui est le lieu où il y a tous les échanges de RER, là, où, un endroit d'une espèce de flipper. Et puis d'autres s'étaient arrêtés. Moi, je m'étais mis sur les escalators, donc pendant 5 heures, je faisais les escalators en permanence, comme ça, dans le but d'écrire un texte, donc plutôt un regard écrit. Et à force de rester immobile dans ce lieu, à un moment, on avait évoqué l'idée, dans un autre projet, en voyant que ce lieu-là, qui était plutôt un lieu de rencontre, de transit, se transformait aussi au fil du temps, on a remarqué que les gens ne pouvaient pas rester immobiles, qu'il y avait plein de lois qui les en empêchaient, donc on ne pouvait pas s'asseoir par terre, enfin on ne pouvait plus s'asseoir par terre. Donc on s'était amusé avec une boutade en disant, bah tiens, on pourrait faire le musée du terrorisme. C'était une boutade par rapport à Vigipirate qui s'implantait. Donc c'était une sorte de défi, qu'est-ce que ça pourrait être qu'un musée qui prendrait à rebours ses contraintes et ses injonctions de circulation liées en fait à la menace terroriste de l'époque, des années 2005 en fait, et post 2001. Et du coup cette idée-là très vite on l'a explorée dans différents lieux en réfléchissant, et par le biais d'un autre projet qu'on a fait sur un autre aéroport qui était à Munich. C'est plus un workshop où on est resté une semaine dans l'aéroport de Munich. On s'est beaucoup intéressé à ce moment-là à l'idée d'imaginer un musée qui serait calqué sur un aéroport, mais virtuel, en imaginant qu'est-ce que ça pourrait être que de naviguer dans une strate de l'aéroport pour réfléchir au lieu à travers des sons, par exemple, des ambiances sonores, et notamment des textes. Voilà, je résume un peu le... Comme c'est long, ça m'a pris... Excusez-moi, j'ai un peu digressé.
Alors, Tiffany Tervanier, est-ce que vous avez, à la lecture du livre de Gwenola et de Stéphane, est-ce que vous avez, est-ce que vous imaginiez avant d'écrire, enfin en écrivant, et tout ce que vous décrivez dans Petit Canet de l'aéroport international, c'est-à-dire toute la décomposition et le fonctionnement de ce lieu qui est un fonctionnement de la mobilité, mais en même temps qui est très contraint. Vous l'expliquez par différents exemples. Il y a la sécurité, il y a l'hyperconsommation, les propositions qui sont assez standardisées. Est-ce que vous avez fait cette expérience en travaillant sur votre livre, en vous imprégnant de cet environnement?
Alors, moi, quand j'ai eu le livre entre les mains, c'est une expérience, c'est extraordinaire, parce que moi, ça fait 4-5 ans, ça m'a pris 4-5 ans pour écrire Roissy, et tout d'un coup, le livre était paru, et je reçois le livre de Gwenola et de Stéphane, et j'aime, et juste, c'est fantastique, c'est-à-dire que c'est, c'est pas du tout la même, c'est vrai que c'est pas du tout la même déambulation, et... Mais j'avais absolument pas, moi, je vais essayer de répondre le plus précisément possible. Moi, quand je suis partie, quand je pars d'un roman, j'ai pas les réponses. Et puis, je viens pas d'un terrain universitaire, j'ai pas la même culture. C'est quelque chose, moi, c'est parti d'un article où j'ai su qu'une femme, j'ai découvert Les Indécelables par cet article, et c'était sur une femme qui répondait à un journaliste, combien de temps comptez-vous rester sur le pôle de Heathrow? Elle répondait, toute ma vie. Donc ça, c'est le point de départ de mon roman. C'est évidemment, sans doute, les aéroports dans le monde entier où j'ai transité, cette espèce, ça vient plus d'une sensation, cette espèce de flottement dans lequel on est, quand on est, c'est un sas. Et c'est vrai qu'il y a cette antinomie, mais je n'avais pas cette précision de langage, de regard, sinon je n'aurais jamais pu... L'écriture, il y a quelque chose, en tout cas, ça advient. En tout cas, moi, il fallait que je déambule, que je découvre. Et c'est ce qui est fantastique, mais complètement fantastique, c'est qu'à l'issue de ce qui est advenu dans mon roman et de ce que j'ai pu ressentir, moi, je trouve que là, pour le coup, le livre de Gwenola et de Stéphane, il y a une sorte de pendant de mon roman qui est absolument génial, complètement génial. C'est-à-dire que là où moi, je passe par des zones, disons que le livre est porté par l'émotion de cette femme et par sa... par son regard, mais c'est un regard à partir d'un vide de mémoire, à partir d'une, parfois une angoisse, à partir parfois d'une jubilation, à partir d'une rencontre. Et je retrouve totalement... avec un autre phrasé et quelque chose d'assez génial, totalement génial même, dans le livre de Gwenola et de Stéphane, et bien au fait, tout l'aéroport, tel que moi finalement je l'ai assimilé, vécu, mais par bribes, par fragments, à travers Anna. C'est comme si tout d'un... C'est extraordinaire, c'est une expérience. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de totalement complémentaire, même pas, c'est presque des jumeaux quoi, mais des jumeaux qui ne se ressemblent pas et qui ont fait venir quelque chose de Roissy. Et c'est vrai que Roissy, enfin tous les aéroports, il y a cette antinomie extraordinaire entre ce dispositif massif, cette pression. Et là, ils trouvent des mots absolument géniaux. Ils ont des mots et des phrases. Moi, je jubilais en lisant leur bouquin. Et puis moi, c'est pas mon job et c'est pas par là où je peux aller quand je suis quand j'écris un roman. Mais j'ai jubilé vraiment complètement parce qu'en plus ils se marrent et puis leur musique du terrorisme, c'est un truc, c'est tout. C'est je me suis dit, c'est qui ces mecs, c'est insensé quoi. Et donc ils font advenir tout effectivement la folie de ce monde dans lequel ce dispositif délirant qu'on subit sans presque même nous le subir, sans même presque en être conscient. C'est pour ça que je pense qu'on parle d'inconscient. Et moi, si j'ai pu y toucher un peu, c'est à travers les gens d'Emmaüs, parce que j'ai fait une enquête. Et donc, les gens d'Emmaüs, à un moment donné, on parle de fluidité. Il faut être fluide dans un aéroport pour ne pas être repéré. Bon, comment ça se traduit? Alors voilà, par exemple, un exemple précis. Là, on parle de fluidité, et c'est vrai. Mais moi, dans mon roman, ça va être un mec d'Emmaüs qui la chope et qui comprend assez rapidement qu'elle est... Là, c'est tout début du roman. Et qui lui donne juste quelques conseils. Lui, c'est son dernier jour. Et qui lui dit, il faut que tu marches. Il faut que tu sois constamment en mouvement. Et que tu ne portes pas des sacs en plastique, sinon tu es repéré. Voilà. Et là, c'est un phrasé de roman et c'est une rencontre. Mais on retrouve effectivement exactement cette injonction à la fluidité. Qu'on retrouve dans le roman de Gwenola et c'est vrai. Et c'est vrai, il faut donc être fluide, sinon on vous chope. Sinon, l'armée des ombres vient à votre rencontre. Et tout le, y a tout un jeu comme ça. On pourrait presque s'amuser à faire un et moi, c'est Liam, les carnets de Liam qui vont parler de la folie de ce dispositif, à mon sens. Et Liam, c'est pour moi un SDF qui a une torsion de langage, qui est complètement dévertébré, qui est dingue, et qui assiste. Non, c'est ça. Moi, c'est une sorte de prophète pour moi, qui annonce l'apocalypse à travers les valises à roulettes, le flux et le reflux hystérique, et puis également toutes ces marques, et donc cette super consommation, et qu'on retrouve, pareil, dans votre livre, pointé avec un humour en même temps et une précision et c'est
vous aussi vous faites justement dans le roman vous faites des insertions comme ça du langage publicitaire qui est là pour qui est rassurant et qui en même temps enfin
il était ça oui, dépend lesquels
hein. Des chapitres entre les chapitres
quand on dit avec la carte Flying Blue laissez vous transporter ouais. Hôtel Ibis, toujours plus de service, toujours plus de confort, voilà, c'est ça auquel je pense.
Il y a les pubs HSBC ouais. qui sont
oui,
terribles.
Alors, je sais pas, vous
êtes être ouvert sur le monde, c'est comprendre les différences. J'aimais beaucoup celle-là. HSBC, votre banque partout dans le monde. C'est vrai que c'est assez effrayant quand on le lit comme ça à froid. Quoi.
Bah, il fallait que je trouve le langage de l'aéroport hein, parce que c'est un peu le personnage. Et donc, voilà, moi, c'est par bribes que je fonctionne et surtout toujours dans le regard d'Anna. Et donc, effectivement, quand vous restez longtemps dans un aéroport, bah, y a une chose qui est claire, c'est que vous avez les jingles, les annonces sonores, les consignes de sécurité écrites partout. Et donc, c'est vrai que ça ressort à travers le récit. Et ça va ressortir de cette façon. Et chez eux, ça va prendre une... c'est le bouquet. C'est un bouquet graphique, c'est un bouquet... c'est vraiment un bouquet, là. Il faut montrer le dessin, peut-être, que vous avez fait... Enfin, moi, je vous assure que... Alors, les photos, vous avez tout, les photos, du coup. Vous avez aussi les photos, l'histoire. Et puis, vous avez des plans comme ça. Oui, sauf qu'ils mettent... Mais je vous laisse découvrir. La façon... Les comment on appelle ça? Les énoncés?
Les légendes.
Heureusement qu'il est sorti au même moment que le mien. Parce que sinon, j'étais foutue. Parce que j'aurais voulu tout recommencer pour rajouter des trucs tellement c'est drôle. Et c'est vrai, c'est drôle et c'est terrible en même temps, mais c'est vrai quoi.
Il faut faire un lot, il faut.
Non, mais. J'en fais juste une. Il y a un moment, excusez-moi, mais franchement, je vous assure, je ne suis pas toujours enthousiaste comme ça, mais là. Donc, il pose des questions aussi. Voilà, et puis alors là, vous avez tout un. Objet, alors, vous avez tout un plan, l'aéroport, donc vous dites, ah, c'est super sérieux, etc., mais c'est vrai. Objet trouvé non identifié, toilette prédictive, musée, musique d'ascenseur, dodécaphonique. Et en fait, c'est drôle, mais en même temps, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Voilà, et moi, en fait, la musique dodécaphonique, après, je vais me taire. La musique dodécaphonique... Ben, au fait, Anna, mon personnage, elle, le petit jingle, parfois, ça la rassure, ça la... Voilà, c'est son massage, et parfois, ben, elle le fuit, quoi. Mais je vais pas dire les choses comme ça, vous voyez ce que... Voilà. Et donc, on baigne, en tout cas, dans ce grand paradoxe de l'exotisme, du rêve et de l'hyper-sécuritaire, dans les deux romans, quoi.
Non mais c'est vrai, enfin merci. Ouais. Merci. Non, mais enfin moi aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre aussi, c'est qu'en fait il y a vraiment un point commun qui est que tu utilises aussi vraiment la matière de l'aéroport pour le construire.
Ouais.
Et c'est très drôle parce qu'en fait c'est pas la même matière. Enfin c'est parfois ouais, la même matière sur des détails, mais sur quelques détails. Et c'est comme si tu avais attrapé dans tes enquêtes une matière totalement différente, avec aussi la forme romanesque et puis ce pour utiliser le mot génial. Enfin, le truc qui est génial, c'est le coup de la perte de mémoire qui, du coup, fait de l'aéroport. Enfin, c'est l'aéroport qui est un lieu, justement, entre guillemets, d'oubli, enfin, en tout cas, d'oubli du monde, de disparition, de... un lieu en dehors de la vie, etc. Bon, du coup, ça fonctionne extrêmement bien du point de vue de la narration, parce que ça, c'est en parfaite cohérence avec le lieu. Et c'est drôle, parce que, du coup, alors ça, pour le coup, c'est pas dans notre livre, là il n'y a pas un point commun, enfin, et après c'est pareil, en lisant ça je me dis ah oui tiens, bah, on a oublié cette thématique là dans les chapitres de notre psychanalyse qui aurait pu être ajoutée, on fera une nouvelle édition par la suite pour les chapitres, là c'est déjà la deuxième édition, donc faut qu'on fasse une troisième édition, on rajoute encore des chapitres, ça peut se faire très bien, mais... Oui, enfin, là, c'est, on rentre vraiment très profondément dans le livre. On fait l'exercice inverse, on parle du livre de l'autre, c'est plus pratique. C'est plus pratique que de parler du sien, parce que quand même, c'est. Mais ouais, dans ton livre, et c'est assez drôle parce qu'en fait, on rentre assez progressivement. On se laisse prendre comme ça, un petit peu comme si on, un peu comme si on allait vraiment à l'aéroport et que, au départ, il y a ce sentiment d'une sorte de, voilà, on rentre dans cet espace qu'on connaît bien, on n'est pas trop surpris, puis progressivement. On est vraiment en train de saisir l'étrangeté des personnages, la justesse, etc. Je suis très mauvais pour parler de littérature, donc je vais arrêter. Et puis, voilà, avec ce lieu qui est rendu vraiment dans toutes ces dimensions les plus étranges et les plus folles, quoi.
Ouais.
Mais le coup de l'oubli.
Mais moi, je me suis posé des questions sur la musique. Je me suis demandé comment. Parce qu'il y avait deux choses qui m'interrogeaient sur le personnage d'Anna, donc qui est amnésique, qui est quand même vraiment en on va dire l'entrée, enfin on rentre par elle et puis on devient un peu Anna quoi, dans le, par identification au personnage. Et je me suis demandé comment tu avais pu toi-même pénétrer ce personnage. Est-ce qu'il y a eu une enquête sur l'amnésie, sur les personnages amnésiques? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu se vivre aussi, parce que ça, on sent qu'il faut pouvoir le vivre un peu pour l'écrire, parce que c'est pas évident d'écrire un personnage amnésique, c'est assez difficile, parce que comme il est amnésique, comment on fait? Et je me suis demandé si dans le lieu, quand il y avait cette enquête, est-ce qu'il y avait aussi une part d'amnésie volontaire à l'intérieur du lieu pour pouvoir se mettre à la place du personnage pour l'écrire? Enfin, c'était assez...
Totalement. Ça m'a pris du temps pour comprendre comment écrire quelqu'un. J'ai eu l'idée, mais au fait, on est dépassé hein, souvent par les idées qu'on a. Et la première version n'était pas bonne, parce que tout ce qui se passait autour d'elle était intéressant. Mm-hmm. C'est toute la matière que j'avais récupérée, mais au fait, ça ne transitait pas par cette absence de mémoire. Et mes trois lecteurs qui me suivent depuis 10 ans m'ont dit « Écoute, c'est chouette, c'est super intéressant, mais ton personnage n'est pas très intéressant. » Et là, je suis retournée à l'aéroport. C'est marrant que tu parles de ça, parce que vraiment, c'est le nœud du roman. Et je suis allée chercher ce blanc en moi. Mm-hmm. Et je me suis dit, et là vraiment j'ai fait une plongée, j'ai dit c'est quoi de regarder le monde à partir d'une mémoire blanche. Et je me souviens parfaitement, c'était la révélation de mon bouquin et ça va vous faire rire, c'est que la révélation c'était que je regardais un panneau et il était rouge. Et j'ai eu cette phrase qui m'est venue, je suis cette femme qui regarde à 2h10 de l'après-midi en 2016 ce panneau rouge et qui aime ce rouge. Et ça, tout le roman est né de là. Il est né de cette émotion qui m'est venue à partir d'une couleur, parce que je me suis dit, la seule chose qu'elle peut savoir d'elle-même, c'est les émotions qui la traversent, mm-hmm. et les sensations. Et donc, imagine-toi là, que l'aéroport m'est advenu, mais à partir, effectivement, d'une... Donc, c'est là où, pour moi, il y a quelque chose de plus amoureux, peut-être, et de plus charnel, et de plus... Parce que tout transite par le ressenti. Voilà, tout va dans ce sens-là. Et même la chose terrible, même les choses assez terrifiantes qui peuvent effectivement émerger d'un aéroport, et cette injonction à la trajectoire, à l'identification, à la régulation, même tout ça, finalement, moi, j'avais pas la distance. Donc ça advient à travers quelque chose qui est de l'ordre du pur ressenti. Je te remercie de poser la question.
Il y a l'idée, si je me permets, il y a l'idée du refoulement dans les deux cas. Dans le vôtre, c'est ce choc post-traumatique qui finalement qu'elle a refoulé. On arrive à comprendre un petit peu ce qui lui est arrivé, ce drame. Il lui est arrivé un drame qu'elle a complètement refoulé, complètement mis sous contrôle. Mmh. Et vous? Dans votre...
C'est un sacré choc post-traumatique. Le lieu qui est
post-traumatique. Et vous rentrez par cette porte-là.
Oui, du coup, pas à l'échelle de l'individu.
Oui, à l'échelle globale, ouais. Bah, c'est une expérience assez traumatisante de prendre un avion aujourd'hui, en fait. Même si c'est des choses... Voilà, c'est des micro-traumatismes, mais... Bah, déjà, on s'était mis à les répertorier, donc on s'était... Alors, on arrive, on se fait fouiller, on accepte de se faire fouiller, on accepte de laisser ses affaires, y compris de s'en séparer parfois parce qu'on a oublié telle chose coûteuse qui est rentrée dans les objets interdits. Et puis après, il y a cette espèce de... Ça dépend des pays où on va, mais parfois, si on va aux États-Unis, ça peut être un interrogatoire assez poussé, avec parfois, sur certaines personnes, des vraies suspicions qui leur viennent. Et puis, il y a toujours les menaces...
Quelle que soit réelle ou fictive,
Et puis il y a tout la stérilité du lieu. Alors là, on avait lu des livres de sociologie sur les Dominique Linhart, un sociologue qui avait écrit tout un rapport sur le métier de sécurité à l'aéroport. Donc l'idée d'un lieu stérile. Qu'est-ce qu'un lieu stérile? C'est un lieu où il n'y a pas de risque, donc le risque zéro, le virus. Ou même l'animal, quoi, qui est exclu du lieu, ou le moindre insecte, impossible d'avoir une mouche dans un aéroport, sinon c'est une anomalie. Et du coup, la question du lieu stérile, qu'est-ce qu'un lieu stérile? C'est aussi en soi une épreuve en fait en tant qu'être humain de se confronter à ça. Parce que c'est tout un des strates en fait. De...
Et aussi c'est l'idée que c'est le lieu qui va pousser tous ces paramètres au maximum. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des lieux stériles, il y a des lieux protégés, il y a des lieux organisés, mais l'aéroport serait le lieu le plus organisé, le plus stérile, le plus parfait, le plus connecté.
C'est l'occident de sa tête, quand vous parlez, en
votre... Voilà, comme si on poussait tous les paramètres au maximum. Et quand on passe tous les ponts, on pousse tous les paramètres au maximum, bah forcément, ça coince quelque part. C'est trop optimal d'une certaine manière et ça va créer. Voilà,
c'est là qu'on arrive
des névroses,
des choses un peu.
Et en fait, ce qu'il faut dire aussi pour comprendre de quoi il s'agit, ce livre, c'est pas vraiment un livre théorique au sens propre du terme, c'est plus une sorte de recension. Enfin, on a répertorié un petit peu à partir de la matière justement de beaucoup d'images trouvées sur Internet, par exemple, de témoignages de gens qui travaillent dans les aéroports, d'anecdotes, de choses qui se sont passées avec, par exemple, des gens qui se font mettre en prison parce qu'ils ont prononcé le mot « bombe » d'une manière dans le mauvais contexte, etc. Enfin, à partir de matières réelles comme ça, qu'on met bout à bout, on fait une sorte d'étiologie voilà, de l'aéroport qui va en dresser un portrait. C'est comme un portrait de paysage, d'une certaine manière, comme un peintre dessinerait le paysage qu'il a devant les yeux, en représentant ce qu'il voit. Nous, on l'a fait en allant dans des aéroports, en allant sur Internet, en collectant des images. Il y a énormément d'images dans le livre, parce que c'est un livre de matière. Bon, ça, c'est juste pour dire, c'est pas un essai théorique, même si après, il y a 20 chapitres qui, bien sûr, expliquent ce dont il s'agit, mais, enfin, décrivent ce dont il s'agit, plutôt.
Et plus ça va, plus on rigole quoi.
Ouais, il y avait un crescendo. Il y avait l'idée.
Côté sérieux, puis un côté un peu second degré, et même parfois.
Oui, puis il y a quelques éléments qui sont inventés par-ci par-là. Alors, dans le chapitre Musée du terrorisme, il lance un projet, mais par-ci par-là, on a mis aussi quelques éléments.
Mais lesquels ?
Ah
oui, mais c'est juste une erreur. Non, parce que moi je suis assez. Non, mais c'est juste ça, et c'est pas voulu. Il y a un moment, il y a un seul truc inventé. Et je tiens à le dire parce que, quand même, c'est pas beaucoup.
Je voulais.
C'est parce que j'avais. Comme on écrit à deux, c'est compliqué d'écrire à deux, donc on a écrit et on mélange et tout ça. Et puis à la toute fin de la correction, Stéphane me dit Gwenola, j'aimerais bien que tu puisses noter les références de cette citation, le note de bas de page, etc. Donc je la relis et je me dis mais en fait. C'est pas une citation, c'est une phrase que j'ai écrite sans faire exprès. Et comme on avait tout été mis en page, j'ai dit on pouvait plus changer, donc on a inventé un auteur avec un titre de livre tout inventé pour. On pouvait plus enlever, voilà.
Mais sinon, c'est vrai. Mais moi, quand je les entends parler, une portrait, on a deux livres sur une survie. Moi, c'est une survie individuelle. Et je trouve que le livre de Gwenola et Stéphane interroge la survie de l'intégralité de notre société. Et c'est pas peu dire, et je trouve qu'il est nécessaire. Alors, et moi, à travers Anna, j'interroge sans doute quelque chose à l'aune de notre survie, et c'est vrai que l'aéroport, pour moi, c'est aussi un peu la métaphore d'une survie, de la survie totale. Qu'est-ce que c'est que la survie ? Qu'est-ce que c'est que le choc post-traumatique ? Je peux dire que je le connais bien, le choc post-traumatique, parce que j'ai une fille qui a été traumatisée, attaquée, et donc qui a été enfermée 3 ans, qui ne pouvait pas sortir d'une pièce sans moi. Et donc le choc post-traumatique est quelque chose qui me pose question, mais encore plus le choc peut-être post-traumatique de toute la société dans laquelle nous sommes. Et qu'est-ce qui définit et caractérise une zone de survie, et ça va vous faire trembler, ou une zone de choc post-traumatique, c'est la peur. Or, notre société actuellement, elle est caractérisée par quoi, si ce n'est que par la peur. Et donc j'en déduis que la société entière est en train de vivre un choc post-traumatique de très grande envergure et une zone de survie de très grande envergure. Moi, je ne vais pas écrire ça noir sur blanc quand j'écris Roissy, et d'ailleurs, je n'en suis pas forcément consciente. Mais à travers Anna, en tout cas, c'est clair, mon personnage principal, il y a quelqu'un qui s'interroge et qui est obligé de s'interroger sur la question de la survie puisqu'elle a perdu dans un acte de survie totale toute sa mémoire. Et donc, toute la question va être, est-ce que je la récupère ? Mais qu'est-ce que je vais récupérer ?
Donc, l'identité.
Et l'identité, la question de l'identité. Et puis de l'autre côté, effectivement, je trouve que c'est un peu la jointure et vraiment le joint des deux ouvrages, c'est qu'il y a une réflexion drôle, certes, mais super intelligente et brillante, et nécessaire, je trouve, sur notre société, sur son choc post-traumatique. C'est un haut, pour moi, est un très grand livre politique. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire des choses d'un ordre d'un militantisme, parce que pointer ici-là une barbarie, pointer ici-là celui-là n'est pas comme ça, ça va beaucoup plus loin. On passe à un autre niveau et nous regardons, comme moi, c'est vrai qu'à travers Anna, c'est quelqu'un qui est SDF et qui se retrouve au milieu de nous et qui nous regarde. Donc, qu'est-ce que c'est que de regarder, d'être regardé à partir de quelqu'un qui est à la marge et qui regarde ce que nous sommes, les soi-disant normaux, ce que nous sommes. Mais là, il y a également ce mouvement qui s'opère dans ce roman et qui regarde l'intégralité à travers l'aéroport, mais un peu le fonctionnement psychanalytique de notre société. Et il est urgent de se poser la question fondamentale de la peur qui nous traverse, de cet effroi, et dans un lieu comme l'aéroport. Donc il est nécessaire, ce livre. Je ne dis pas ça, vraiment, il est nécessaire, parce que moi, même moi, après avoir écrit Roissy, donc il y a déjà des questions qui m'ont... Je trouve que ça répond et ça interroge, ça travaille, quoi. Là, on est dans un magnifique enjeu de réflexion et un terrain de réflexion sur ce que nous sommes.
Est-ce que vous aviez conscience, est-ce que c'était un parti pris de finalement faire la photographie de ce lieu comme un archétype qui devient même un modèle pour d'autres organisations, voire une société? Est-ce que c'était... Est-ce que ça vous parcourait l'esprit ou est-ce que c'était une démonstration que vous vouliez...
Oui, parce qu'on a commencé à Châtelet-Les-Halles. En fait, Châtelet-Les-Halles, en fait, c'était le laboratoire, quoi. Mm-hmm. C'était le moment où Châtelet-Les-Halles basculait du lieu où tout le monde se croisait dans ces lieux hip-hop, faisait les battles, les gens de la banlieue arrivaient ici. Et puis ça s'est polissé et avec l'injonction de ne plus s'asseoir. Et c'était un petit détail, mais en fait, tout de suite, là, le lieu, il a changé en lieu de circulation. Et après, c'est ce qui nous intéressait, c'était de montrer ça. Donc l'aéroport, c'était mieux qu'au Châtelet-Les-Halles, parce que l'aéroport était beaucoup plus archétypal, en fait. Donc ouais, on a transvasé cette idée dans l'aéroport.
Oui, c'est vrai que tout le livre tourne un petit peu autour de cette idée d'archétype, avec l'idée de, effectivement, d'un lieu de consolation. Alors là, du coup, il y a un rapport direct, évidemment, parce que, un lieu de consolation... au sens sociétal, mais aussi dans ton livre, au sens... c'est le lieu où cette femme traumatisée vient, parce que l'aéroport étant un lieu d'annulation de toutes les peurs, en cherchant à être un lieu d'annulation de toutes les peurs, fonctionne sans doute très bien pour ce personnage. Et alors, juste pour rejouer au jeu où on parle du livre de l'autre, je trouve qu'il y a vraiment... C'est aussi... Moi, en lisant ton livre, j'avais l'impression que l'aéroport était, d'une part... un objet pratique pour toi en tant que romancière pour parler de ça, mais aussi ça parle, c'est un personnage en soi qui a une importance non seulement individuelle pour Anna, mais en tant qu'aéroport, c'est quasiment, tu aurais pu l'appeler psychanalyste de l'aéroport international, je plaisante, mais donc c'est à la fois, il y a vraiment deux personnages, il y a Anna et l'aéroport qui ont une part tout à fait égale, et l'aéroport n'a pas du tout un rôle de décor passif, ça c'est évident. Et puis tu parlais d'humour, il y a aussi beaucoup d'humour dans ton livre. Alors c'est pas du tout un humour où on va s'esclaffer de rire à chaque page, parce que l'histoire est quand même pas mais il y a une distance, il y a une sorte d'ironie comme ça qui transparaît dans les discours de Liam par exemple, mais aussi dans pas mal d'autres, les slogans HSBC ou autres qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Il y a une sorte de distance par rapport au lieu, par rapport à l'écriture qui est assez bienvenue, dans la lecture, pour le lecteur en tout cas.
Et il y a aussi par rapport à cette question de... je sais pas si je peux dériver, mais je pensais à l'histoire d'amour dans l'aéroport. Je pensais à deux choses, en fait, deux types d'amour, mais qui se rejoignent. Nous, j'ai l'impression qu'on s'est souvent attaché à des lieux maudits, qu'on essaye d'aimer des lieux maudits. Donc il y a l'idée d'amour d'un lieu, parce qu'on peut aussi aimer un lieu. C'est comme les gens qui s'attachent à des animaux. On peut s'attacher à un lieu. Ça peut être un être vivant, quoi. Mais je pensais à ça parce que je me disais... Enfin, c'est vrai qu'on a tendance en Occident à séparer les êtres vivants des objets inertes, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres cultures, et qu'on pourrait tomber amoureux d'un lieu comme on tomberait amoureux de quelqu'un, ça serait possible, quoi. Et donc, du coup, ça m'a fait dériver sur l'histoire d'amour d'Anna et de Luc. Et je me suis posé plein de questions aussi sur cette histoire, parce que je me suis dit, sur Luc, je trouvais ça fascinant, cette personne qui revient... chercher sa femme, chercher ce vol qui n'arrive jamais. Mmh. Et alors, je me suis dit, est-ce que c'est vrai, voilà, est-ce que cette personne a existé vraiment, est-ce qu'il faut l'avoir inventée quand même, c'est assez fou. Et ça m'a fait penser à une autre histoire sur ce vol, parce que j'ai cru, je me rappelais, à un moment j'avais lu des articles sur ce vol Rio, et je crois qu'il y avait deux personnes qui avaient perdu chacun quelqu'un. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Du coup, je me suis demandé si c'était pas. Oui, parce qu'en fait.
Non, c'est totalement inventé.
Ah, totalement inventé, d'accord.
Ouais, il m'est venu tout de suite, Luc, et sa souffrance et sa douleur m'est venue. Elle m'est venue totalement, et c'est vrai que j'aime les gens plantés. Enfin, quand je dis planté comme un ordinateur, c'est-à-dire que les gens qui sont. Vous savez, il y a aussi une injonction, et ça vous en parlez très bien, les injonctions au bien-être dans notre société. Et il y a des gens qui ont perdu quelqu'un, et puis au bout de 6 mois de pleurs, on leur dit, bon, bah écoute, maintenant c'est bon, là, on passe à autre chose. Et si ça va pas, on leur demande d'aller bien, et donc d'aller chez un psy, ou alors d'aller faire ci, une thalassothérapie, ou ça, mais enfin bon, on ne veut plus de cette douleur-là. On ne veut plus de cette douleur-là. On est d'une violence absolue. Et moi, je suis avec un homme, j'ai deux fractures qui sont insupportables pour la société dans laquelle nous sommes. J'ai quelqu'un qui est sans mémoire, donc qui pose et qui repose totalement la question d'identité, puisqu'il faut absolument être identifié. Mm-hmm. Et puis j'ai de l'autre côté quelqu'un qui est planté et qui reste totalement planté dans sa douleur, dans la perte de cette femme. Et dans cette douleur, il est hautement poétique, parce que les survies sont souvent très poétiques. Et le mot poétique, attention, j'utilise avec une puissance vitale. La vie est éminemment poétique. La vraie vie, la vraie biologie, elle est fantastique, elle invente sans cesse, elle vous propulse dans l'inconnu. Et lui, la seule façon de survivre, c'est d'attendre sa femme morte tous les matins. Et pendant 20 minutes, avant que les portes s'ouvrent, il se dit, elle va arriver. Et ça, ça le tient debout, ça le tient en vie. Mais évidemment, ça le propulse dans une solitude totale, parce qu'il n'y a pas du coup de fonctionnement social, il n'y a pas d'efficacité, de productivité, tout ce que vous savez, voilà. Et de la part d'Anna, il y a non plus une impossibilité totale d'être dans ce mouvement incessant de productivité, d'appartenance à cette société. Et donc ces deux naufragés se retrouvent dans cet aéroport. Et donc oui, non, il est inventé, Luc. Il est inventé. Et
sur ce vol, ce fameux vol Paris-Rio, il y a eu un homme qui a perdu sa femme et deux enfants. Et plusieurs mois après, il était toujours en attente.
Ouais, c'est
et,
ça. C'est pour ça que je pense à ça.
Pas forcément à l'aéroport, mais ouais. Il ne pouvait pas enlever ça de son esprit.
Ouais, ouais, j'avais lu cette histoire aussi, c'est pour ça que ça m'a résonné. Et il y a eu une autre histoire, c'était un vol où... alors c'est peut-être le même, je ne sais plus. Et donc il y avait un homme qui avait perdu ses enfants et sa femme. Et il y avait une femme qui avait perdu son mari, et aussi peut-être encore quelqu'un d'autre. Et tous les deux se sont mis à faire une enquête sur ce vol, et ils se sont retrouvés ensemble, et ils vivent une histoire d'amour. Enfin, en tout cas, quand j'avais lu les articles. Et c'est pour ça, les deux histoires, je me demandais, donc j'arrivais plus à savoir si c'était la part documentaire de la
Luc,
part...
Si Luc peut venir de quelque chose que j'ai vu, ça n'a rien à voir, c'est au fait les... après l'apartheid, il y a eu les missions de réconciliation, ces commissions de réconciliation lancées par Nelson Mandela, où les bourreaux étaient amnistiés à partir du moment où ils avouaient leurs fautes devant leurs victimes. Et donc moi j'ai vu beaucoup de documentaires à ce sujet. Il y a eu 5000 commissions de réconciliation, et donc ça date d'il y a 15 ans. Et donc Luc m'est resté, enfin Luc, celui que j'appelle Luc, mais qui n'est pas le mec que j'ai vu, mais qui a sans doute joué, je pense, parce qu'à un moment je parle du manteau bleu et ça je lui rends hommage, c'est qu'il y a à un moment donné un homme pour le coup blanc qui est la victime. La plupart évidemment des gens dans ce documentaire, ce sont des noirs qui sont victimes de bourreaux blancs qu'ils ont torturés ou qui ont tué des gens de leur famille. Et là il s'agit de 3 jeunes noirs qui sont entrés dans une église enragés et qui ont posé une bombe. Et donc ils font face à un homme, hein, ils ont tué sa femme. parmi les victimes. Et c'est 10 ans après les faits. Ils pleurent, les 3 jeunes pleurent en demandant pardon, en disant qu'ils étaient enragés, qu'ils ont vécu des trucs terribles, qu'ils voulaient, que maintenant ils regrettent, etc. Et le type en face n'a que cette réponse absolument sublime. Vous êtes le plus grand écrivain du monde, vous ne pouvez pas trouver ça. Et il lui répond, mais quand vous êtes entré dans l'église, est-ce que vous vous souvenez ? Ma femme, elle se tenait à côté de moi et elle portait ce manteau bleu. Vous vous en souvenez de son manteau ? Son manteau bleu, vous vous en souvenez ? C'est monstrueux, quoi. C'est d'une beauté, quoi. C'est tout l'amour de cet homme. Et les 3 qui pleurent, et qui demandent pardon, et ils recommencent. Mais vous en souvenez ou pas ? Elle était là, elle était belle avec son manteau bleu. Voilà. Il vient peut-être de là. C'est comme ça que ça travaille un écrivain, en fait. Hein. C'est des émotions que je ressens. Quelqu'un me parle dans un bus, et puis 20 ans après, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai tellement ressenti avec force que ça arrive à travers un personnage ou quelqu'un. Mais il viendrait plutôt de là, et je ne savais même pas. Mm-hmm. Et parfois, c'est vrai qu'on découvre après des choses qui se révèlent se croiser. Hein. Mm-hmm. Puisque là, ils ont trouvé quelqu'un qui n'avait pas de mémoire à l'aéroport. Récemment, encore en décembre, une femme, et ils lui ont payé des cours d'hypnose, ADP, puis ensuite ils lui ont payé son voyage de retour chez elle parce qu'ils ont découvert qu'elle habitait au Guatemala. Et du coup, ils ont fait de cagnotte pour la... C'est histoires, voilà, c'est... Bon, c'est pas mon histoire, mais voilà.
Mais il y a un apatride qui a été...
Oui.
Qui a vécu plusieurs mois.
17 ans. Ouais. 17 ans en zone internationale. En zone internationale, moi c'est en zone publique que ça se passe, hein. Elle peut partir à tout moment.
Non, mais
c'est en zone, c'est un Iranien en zone internationale. Ouais. Ah, en national. D'accord. Et tout le monde le connaissait. Hein. Il demandait, moi j'ai rencontré quelqu'un qui le connaissait, il demandait des plats végétariens, et à un moment il lui demande des lunettes, et puis il dit je veux des Ray-Ban. Bon, tout le monde c'était, tu t'exagères. Bon. Il y a aussi ça, il y a toute une communauté aussi. Pour le coup, dans mon roman, il y a un truc, ça, c'est qu'il y a toute la communauté des gens qui travaillent. Où j'ai fait un énorme travail aussi là-dessus de documentation. Il y a, voilà, il y a vraiment quelque chose de particulier à la communauté de Roissy. Qui est, voilà.
Le personnel rampant.
Il y a le personnel rampant qui travaille au sol, et le personnel volant, c'est celui qui travaille dans les airs. Vous avez tout un lexique comme ça.
Oui, c'est
les rampants et les volants. On les appelle comme ça, hein. Ils s'appellent entre eux comme ça.
Ça, c'est pour les bombes passées ici.
Les baignoires, je crois que c'est un touriste qui s'est paumé. Un dupe, c'est quelqu'un qui s'est embarqué 2 fois. Donc,
les bunkers aussi vont.
Ouais, le bunker avec les bagages.
Les bagages.
Qui vont exploser.
Qui vont détruire.
Non, c'était ce Roissy, il y avait 2 volets, ça durait 4 heures.
Ah non,
mais
non.
Vraiment, ils ont épluché. Hein,
ah oui?
On voit la procédure des bagages, quand les bagages se perdent, parce qu'en fait, ce n'est piloté que par des robots.
Oui.
Alors, il y a le robot enquêteur qui va essayer de retrouver
où
le bagage a pu disparu. Et généralement, il trouve. Parce que c'est généralement une panne d'orientation, en fait. Mais ce n'est pas un vol. Parce qu'il y a eu des vols dans les
bagages. Ah
pour ça, vous parliez de 700 caméras, alors il y en a un paquet dans ces endroits-là, quoi. C'était des gens de l'aéroport qui...
Oui, qui volaient, ça. Il y a eu pas mal de filous. Pas seulement dans les bagages, hein, je peux vous rassurer. Au portique de sécurité, là, ils ont arrêté une troupe, une joyeuse troupe. Ça a été... c'était des millions. Hein,
oui, c'est ça.
Parce que ça faisait des années qu'ils dépouillaient les passagers.
C'est ça.
En fouillant, soi-disant, leurs sacs, puis les mecs partaient, puis en fait, il y a piqué les téléphones, les machins, puis les gens, ils se retrouvaient dans l'avion, c'était trop tard. Les filous. Ouais. Mais je regarderai.
Je ne sais pas si on peut contacter Arte.
Ah
bah
je pense qu'on peut.
Pour avoir le reportage.
Alors il y a aussi des choses très drôles hein, dans vos deux livres. Hein, je pense à ce voyageur chinois qui achète un château Yquem 1996 à sa sœur, qui aime les vinaigrettes faites avec du bon vin français.
Oui, il dépense 2 ou 3 000 euros. Et,
ouais, 2 000 euros.
Ça m'a été raconté, hein, pour le coup. C'est du... effectivement, ça fait partie des anecdotes croustillantes qu'on me raconte. Je me dis, là, je ne change pas une ligne, parce que ce n'est pas la peine, quoi. Et il part et il dit qu'il va faire des vinaigrettes. avec 3000 euros de, parce qu'il reste du cash. Je ne sais même pas combien d'ailleurs, j'ai plus les chiffres, c'est dément.
Presque 2000 euros.
Oui, c'est ça, 2000 euros.
2000 euros,
ouais. Je pars en disant que ce sera pour les vinaigrettes.
Et aussi dans votre livre, Gwenola et Stéphane, cet Américain qui a atteint du syndrome de la Tourette.
Ah oui.
Et qui en 2013 n'arrive pas à s'empêcher de prononcer le mot bombe. Alors évidemment, ça cause un peu d'embarras. Alors c'est dans les photos aussi. Soit vous faites vous rapportez un texte, soit c'est dans les photos et on a des photos tout à fait saisissantes. Par exemple de ces deux Chinoises qui ont subi une chirurgie esthétique et qu'on ne reconnaît pas. Au passage, à la douane, on ne les reconnaît pas sur leur photo de passeport. Donc elles sont obligées de se munir d'un certificat de leur chirurgien pour attester que c'est bien elles.
Ils ont fait passer une loi pour que ce genre de cas, parce que ça arrivait apparemment, c'était pas la première fois qu'ils avaient le problème, parce que il y a un tourisme de chirurgie esthétique. Et que parfois, donc elles sont complètement transformées. En plus, elles ont le visage gonflé, donc elles sont remplies de bandages, donc elles sont méconnaissables. Et que l'hôpital soit obligé de fournir un certificat pour qu'on puisse les reconnaître.
Et vous avez trouvé ça où?
Alors, en fait, c'est le mot Internet ne veut pas dire grand-chose, parce que Internet, c'est tout à la fois. Mais on pourrait dire qu'on a une pratique de recherche compulsive sur les réseaux.
Ouais.
De manière... Alors, en fait, c'est des strates et des strates de recherche. Par exemple, quand on fait ce genre de recherche... on va chercher des choses qui nous intéressent à des endroits précis. Par exemple, je ne sais pas, on s'intéressait aux crises d'aéroports à un moment. On s'était dit, surtout... des fois, ça peut être pour un autre projet. On a plein de projets différents et sur un projet, on tombe sur un truc et puis ça nous amène à... Et donc, les crises d'aéroports, c'était intéressant parce que on s'est vite rendu compte, avec plusieurs recoupements, qu'il y avait vraiment... quelque chose qui revenait souvent, qui était des gens qui en ont marre à un moment ils en ont marre pour plein de raisons différentes, c'est pas forcément les mêmes raisons, et ils se mettent à faire une crise d'hystérie et à se déshabiller, et à finir à poil. Après souvent le portail de sécurité, et ils finissent à poil en hurlant, en courant. Alors ça, il y a des variantes, ça peut être les policiers ou douaniers qui leur courent après avec des serviettes pour cacher les parties intimes, ou ça peut être ou alors ils s'arrêtent tout seuls. Enfin, il y a plein de variantes possibles du même scénario. Et du coup, on s'est dit, on va garder toutes les histoires. Donc là, on a une sorte de, comme on ouvre une boîte et puis on compilation, quoi, comme on dit.
Oui, c'est ça. On cherchait toutes les manifestations. Il y a l'aéroport qui est cette grande machine extrêmement bien huilée, extrêmement bien organisée, qui du coup, à force de mettre sous pression les gens génèrent forcément des réactions extrêmes. Et il y a des sortes de... Enfin, les gens qui se mettent à poil, par exemple, il y en a plein. Enfin, c'est vraiment... quand on commence à chercher, c'est une sorte de tendance.
Mais est-ce que c'est pas aussi à force de devoir se enlever un vêtement?
Finalement, j'enlève tout.
Autant passer à poil...
C'est ça, tout simplement, mais qui
on
comprend.
Plus facilement le portique.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Quoique, on peut avoir des choses à l'intérieur.
Il y a une histoire extraordinaire qu'ils ont trouvée, c'est entre le Tokyo-Londres, ou Londres-Tokyo, je ne sais pas, moi je pleurais de rire. Et donc carrément un commandant de bord, parce que c'est vrai que cette pression qui s'effectue sur nous tous, ça donne des pétages de plomb, des burn-out. Maintenant, ils appellent ça des bore-out, les gens qui s'emmerdent tellement qu'ils pètent les plombs. Et alors là-dedans, des bore-out. Et alors bientôt, maintenant, là-dedans, c'est effectivement c'est sécurité. Et là, il y a un commandant, je me dis, si j'avais été sur le vol avec ma fille, là déjà, qui est traumatisée à mort, le commandant, il a pété les plombs, il est sorti du cockpit. Et il a hurlé « Terrorisme, Irak, on est tous foutus !» Et là, ça a été dans l'avion. Mais carrément la panique totale. Le mec, il avait complètement pété les plombs, c'était pas vrai du tout. Et donc du coup, les stewards et machin, et mon mari, je raconte l'histoire parce que c'est tellement drôle, quoi. Il dit « Heureusement qu'il y a des copilotes sur des avions, parce que là, le mec, si on est obligé de lui dire de reprendre l'avion. » Donc ils ont dû le planter au sol et tout, j'imagine que ça a dû être la cata. Et puis ils ont dû essayer de calmer tous les gens qui, ça y est, ils se voyaient tous morts. Ça c'est génial, il y en a plein comme ça.
Il y a plein de crises hystériques.
Moi j'ai pas eu ça évidemment.
Et puis il y avait la Chine aussi, parce qu'en Chine, comme c'est. Il y a beaucoup d'histoires chinoises, enfin il y a les tendances crises d'hystérie. Et en Chine, il y a l'histoire chinoise d'hystérie qui est encore autre chose, c'est plus la désorganisation de certains vols à une certaine période. Là je crois qu'il y en a un petit peu moins, mais il y a une période où il y avait certainement beaucoup de vols massifs. Programmé énormément et il y a eu 2-3 fois des conditions de météo qui font qu'ils ont dû annuler. Il y a eu une tempête une fois pour un départ à Hokkaido où l'aéroport s'était trouvé complètement immobilisé et tous les vols étaient annulés sur 3 jours de suite, un peu comme quand il y a eu l'histoire du volcan dans ton livre, qui est très bien d'ailleurs décrit. Et à ce moment-là, les Chinois qui devaient prendre les vols et les Japonais, enfin, ils se sont ligués, ils se sont révoltés contre le personnel de l'aéroport, mais tous ensemble. Et donc, il y a eu des destructions d'embarcadères. Ils se sont tous mis ensemble. Et donc, on voit dans certains films, parce qu'on avait la version film du livre, parce qu'à force de voir des images, on s'est plongé dans ces films. Et dans les films en question, c'est des scènes complètement démentes où il y a il faut imaginer des groupes entiers de touristes qui, tout d'un coup, se mettent en révolte ensemble à détruire le terminal, en fait. Tous ensemble. Et les stewards qui sautent, et les panneaux qui volent, et tout. Donc c'est vrai que c'est assez jouissif, parfois, quand on a des moments comme ça de libération.
Parce qu'en Chine, il y a eu un essor très, très, très rapide des vols aériens dans les dernières décennies. Et avec des pratiques qui ont évolué un peu vite. Par exemple, tous les vols sont notés sur leur ponctualité. Et donc la plupart des compagnies aériennes maintenant embarquent tout le monde à l'heure. Puis ensuite ils attendent une heure ou deux avant de décoller, comme ça ils sont notés à l'heure. Et donc les gens s'énervent encore plus, puisqu'ils sont assis sur leur place d'avion, sanglés, etc. Enfin c'est encore plus pénible que d'attendre avant l'aéroport. Et voilà, comme ça s'est développé extrêmement rapidement, les usages n'ont pas forcément eu le temps de s'adapter aussi vite. Ce qui enclenche parfois des crises à l'intérieur.
On laissera secret le dernier chapitre de votre livre.
Ouais.
On vous laissera le découvrir.
Alors c'est pas un livre à suspense non plus.
Non.
J'habite peuvent se lire dans l'ordre.
C'est moins un suspense que Roissy.
Non, c'est vrai qu'on peut on peut l'aborder.
Qui est plus à suspense.
Pas forcément dans l'ordre chronologique. Bon. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée?
J'ai encore une petite chose. Je crois que c'est dans le reportage que je l'ai dit. Les aiguilleurs du ciel. Si l'un d'entre eux lui arrive quelque chose, il y a toujours des remplaçants. C'est comme les chirurgiens dans les hôpitaux, il y a toujours quelqu'un, je ne sais pas, il y en a peut-être une dizaine qui sont prêts à prendre les commandes, parce que là, il ne s'agit pas d'attention.
Ouais, moi, j'étais dans la. Dans mon enquête, j'ai pu accéder totalement au loose day, parce que vous savez, ce dispositif de sécurité. En fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je me suis retrouvée dans un cockpit d'avion, je me suis retrouvée dans la... Parce que dès que vous commencez à connaître les gens, il y a tout de suite des contournements. Parmi les SDF connus de l'aéroport, il y a 2 clandestins connus de tous les flics. Donc c'est constamment... J'aime bien... Moi, je le dis comme ça, voilà. Et puis, le S4 a été construit au vu et au su de tout le monde, et tout le monde le sait, par une grande partie du S4 a été construit par des clandestins. Et donc, on savait où étaient les clandestins, et on savait où étaient leurs matelas, leurs échelles, etc. Bon, ça, tout le monde le sait. Donc, si vous voulez, c'est un truc, c'est comme ça, le monde dans lequel nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a une chape comme ça. Et puis, au fait, derrière la chape, quand vous creusez, vous rendez compte qu'il y a toute une... Il y a des zones de contournement partout. Et dans les aiguilles du ciel, moi, je m'en faisais un truc. C'était pour moi, c'était... en plus, j'avais fait 5... Après, j'ai écrit 50 pages que j'ai dû jeter. Parce que c'est impossible de faire venir mon personnage dans la tour de contrôle. En fait, c'était pour le coup délirant. Mais c'était génial. Vous imaginez, vous perdez la mémoire, tour de contrôle. Là, j'étais au maximum de la psychanalyse. Mais je n'ai pas pu le faire, là. Et donc, je m'attendais à des types qui avaient 50 ans de métier, super machin. Eh ben, pas du tout, c'est des gamins de 25 ans, 30 ans, voilà, déjà. Chewing-gum à la bouche, en train d'écouter de la zik à fond. Et effectivement, c'est un boulot absolument délirant, parce que c'est hyper... en revanche, quand ils sont en commande, ils sont à 100%, parce que, surtout à Roissy, c'est très dangereux, parce que quand un avion s'arrête, c'est un des seuls aéroports au monde où... Pour revenir à son parking, il traverse des pistes, des pistes, parce que bon, parce que c'est un aéroport qui s'est construit aussi architecturalement, il a grossi, c'est un des premiers, donc il a fallu rajouter, ce qui lui donne un truc un peu loufoque et passionnant en même temps, mais un peu loufoque quand même dans la même la disposition. Et donc à la tour de contrôle, c'est hyper, c'est un vol toutes les minutes, hein, je crois, je ne me trompe pas, quand c'est des gros départs. Et donc bah c'est hyper stressant, quoi, et la moindre erreur, c'est la collision, quoi. Donc on est sur des trucs, bon, mais ils sont super jeunes, ils sont hyper sympas. Je les adore et j'avais l'impression d'être avec des geeks, genre jeux vidéo, ouais. Hein, il y avait la nana, ouais, machin, et en même temps hyper balèze. Donc il y avait un mélange, quoi. Et moi j'arrivais, j'avais tellement, comme moi quand je vais en banlieue dure et que je vais voir les gamins, ils attendent l'écrivain, ils attendent Victor Hugo, hein. C'est-à-dire là, il me dit, elle est où ta barbe? Il est où l'écrivain? Il le cherche, et je dis, bah c'est moi. Et bah attends, elle est où ta barbe? Voilà. Et donc bah moi c'est pareil au fait, quand je suis montée dans ma tour de contrôle, ouais, c'était les mecs genre ouais putain machin, c'est nous, on dirait tout. Non, les gamins beaucoup plus jeunes que moi, chewing-gum à la bouche, musique, voilà. Alors ça fait partie des super, j'ai pas pu. Donc effectivement, et il y a tout le temps quelqu'un, tout le temps effectivement, vous avez raison, une équipe prête à, parce que ça déconne pas, hein, à si quelqu'un même fait un malaise ou n'importe quoi, il faut absolument pouvoir, c'est du zéro erreur là, donc il est toujours prêt à pouvoir remplacer. Il y a eu une panne d'électricité, moi quand j'ai fait, ils m'ont dit qu'elle a duré, je crois, une minute. Il y a en 2000, je ne sais plus quelle date, mais je ne l'ai pas dans mon roman, mais je l'ai écrit sur un cahier. Ils m'ont fait visiter la salle. Il y a une salle immense où il y a tout qui coordonne. C'est en cas de panne d'électricité, justement, s'il y a un problème avec l'heure de contrôle, voilà, ils rallument tous les trucs, tous les ordinateurs. Et c'est une salle dans laquelle ils m'avaient amené aussi, totalement loose day, tout ça. On me file des badges et tout, mais parce que je commence à être connue aussi par les gens. Donc ils savaient aussi que j'étais pas quelqu'un. Mais c'est assez marrant quand même, c'est que j'ai quand même contourné. Normalement, ça passait par des gens un peu plus haut placés, et là non. Et donc je me retrouve dans cette salle et ils m'expliquent qu'effectivement, ils ont eu une fois un arrêt total, un plantage pendant une minute. Et donc là, il y a un relais avec des générateurs ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, j'ai rien compris parce que je suis nulle en informatique, mais c'est une salle. C'est James Bond, quoi. Là, il y a un nombre d'ordinateurs partout. Et donc, en cas de problème, voilà, il relance la machine. Et de toute façon, il y a un appel à tous les avions qui automatiquement ne se posent plus et attendent d'avoir le feu vert de la tour de contrôle.
Une erreur d'affichage, il n'y a pas longtemps qu'un avion s'est retrouvé en Allemagne, je ne sais pas où, il est allé il y a 3-4 jours. Là. Le panneau d'affichage, il y a eu une erreur.
Ça, c'est pas mal. Mm-hmm.
Il a atterri à Londres. Il va aller à Düsseldorf, hein, c'est ça. Ouais, voilà. Le passager s'est retrouvé à Londres, ça, c'est... mais c'était pas,
pas prêt. C'est pas la
faute du pilote. Hein. Lui, le pilote, c'est les affichages qui sont...
Il avait sur plan de vol.
Ah oui, il a suivi son plan de vol.
C'est pas mal.
Les passagers, eux.
Parce que même dans le ciel, il y a un dispositif, il faut que vous le sachiez quand même. C'est qu'au fait, il y a des entrées, des sorties hyper balisées. Vous ne rentrez pas n'importe où, au fait, sur le terrain de Roissy. Hein. Donc, il faut entrer par. Il y a des portes de sortie et des portes d'entrée. Et donc, les avions doivent s'aligner. Hein. Pour s'aligner, ça prend un certain temps, donc assez loin, pour pouvoir pénétrer la zone en parfaite ligne dans la zone d'entrée. C'est vraiment longitude, c'est un point précis. Et donc les avions entrent par ce point et sortent, sauf exception. Mais c'est vraiment là-haut aussi, il y a un balai très coordonné. Donc on ne s'en rend pas compte qu'il y a quelque chose qui s'effectue aussi en haut, parce que c'est assez marrant, parce que moi je pensais, ils débarquent les mecs, puis ils appellent, ils disent je suis là-haut. Je leur ai même demandé dans le cockpit du 747 s'ils avaient des rétroviseurs, je ne vous raconte pas le fou rire qu'ils ont eu. Hein. Parce que moi, je n'avais jamais été dans un cockpit que dans le ciel. Mais quand vous êtes au sol, c'est une expérience métaphysique. Parce que les hommes, ils sont tout petits. C'est un truc de malade. d'être dans le cockpit d'un 747 au sol. Et donc je dis, mais attendez, quand vous reculez, ils ont eu des accidents. Hein. Il y a un mec qui a perdu ses jambes. Parce que le Batman, il fait, c'est pour ça que c'est très régulé tout ça. Parce que le moindre mouvement d'appareil, si un mec est derrière, il ne le voit pas. Hein. Donc je leur demande, mais vous avez des rétros ? Une minute à plat ventre. Une minute à plat ventre. Et pourtant, le Boeing...
Bah, grâce à toi, ils vont peut-être m'installer.
Je sais pas, non, je pense. Bah, la 380, la première fois qu'il est parti devant tous les officiels, il a littéralement achevé un aérogare avec son aile, hein, parce qu'ils n'avaient pas vu que les ailes les étaient. Enfin, vous savez, c'est pour ça que je vous dis, c'est super organisé, et c'est vraiment quand même super bien organisé, sinon il y aurait 5000 morts par jour, hein, quand même, faut savoir. Mais il y a toujours. C'est là, il y a toujours à un moment donné, c'est
la faille.
Ouais. La 380 devant le président et tous les officiels, il a tourné et heureusement il y a personne dans l'aérogare. C'est un aérogare qui était là et parce qu'en fait il a des envergures d'ailes qui sont beaucoup plus grandes que les autres avions. Et les mecs, ils n'avaient pas. C'est fantastique ça. Vous imaginez la tête des pauvres gens. Officiel et tout, ça a dû leur coûter leur maximum. Non, mais moi j'adore ce genre d'histoire, quoi. Je viens du cinéma, il faut que ça soit super précis le cinéma. Ça coûte très cher. Donc il faut pas faire. Eh ben, il y a toujours une faille, il y a toujours une merde, une erreur, un truc où le mec dit dans le mec de régie, dit vous tournez 150 mètres avant le panneau. Sur la fiche pour toute l'équipe, eh ben 150 mètres avant le panneau. Les mecs, en fonction de ce que vous pensez être 150 mètres, il y a les mecs qui s'embarquent. Dans un chemin, là, c'était en Portugal, ils sont partis dans la montagne, impossible de faire demi-tour, ils avaient des chevaux dans leur truc qui ont failli crever et tout. C'est une journée de tournage plantée juste à cause de l'erreur. Parce que les mecs, 150 mètres, en fonction d'appréciation. C'est génial, les failles. Et c'est génial, un mec qui écrit ça sur un itinéraire. Hein. Ça, déjà, le mec. Il n'a pas fait long feu. Hein.
Merci. Merci à vous trois. Merci. Il y avait une dernière question ? Romain ? Merci.
Merci Olivier.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.